Le journal par François Chagnot. Bonjour François.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les contours de la loi sur la fin de vie se précisent. La ministre de la Santé promet ce matin de nouveaux moyens pour les soins palliatifs. L'Argentine fait face à la pire épidémie de dengue de son histoire et fidèle à ses principes, le président Javier Milei laisse faire. Et puis c'est un des genres littéraires préférés des Français. Le polar est en fait ce week-end à Lyon. La ministre de la Santé détaille donc le plan de développement des soins palliatifs en France. Emmanuel Macron l'avait promis dans le cadre de l'ouverture du droit à l'aide à mourir. Dans une interview au Monde ce matin, Catherine Vautrin confirme donc un effort financier supplémentaire de plus de 1,1 milliard d'euros sur 10 ans, Caroline Félix.
On va passer de 1540 lits aujourd'hui à 1760. L'an prochain, c'est 220 lits en plus. Voilà ce que dit Catherine Vautrin ce matin, avec un objectif que tous les départements soient dotés d'une unité de soins palliatifs en 2025, c'est-à-dire d'une équipe dédiée dans un hôpital. Dès cette année, ces UPS doivent voir le jour dans 9 départements. Le Cher, les Ardennes, les Vosges, l'Orne, le Lot, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, la Mayenne et la Guyane. Et puis renforcer les soins palliatifs passe aussi par la formation, avec la création d'une spécialité, je cite, lisible et attractive pour les étudiants en médecine. Enfin, Catherine Vautrin détaille dans Le Monde les échéances pour les maisons d'accompagnement, ces structures qui vont accueillir les personnes gravement malades et qui ne veulent pas rester chez elles. Une vingtaine doivent être créées d'ici 2 ans.
Et le projet de loi sur la fin de vie sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Il sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Une affaire rarissime secoue la justice. Une magistrate de la cour d'appel d'Agen est soupçonnée d'avoir frayé avec le banditisme corse. Elle a été mise en examen et écrouée cette nuit. La justice la soupçonne notamment de détournement de fonds publics, de trafic d'influence ou encore d'association de malfaiteurs. La juge aurait commis ces faits sur une longue période, mais en particulier entre 2010 et 2016 lorsqu'elle a été juge d'instruction en Corse. Rien ne semble pouvoir freiner la pire épidémie de dengue de l'histoire de l'Argentine. C'est aujourd'hui le 3e pays sud-américain le plus touché par ce virus. Les insecticides et les sprays anti-moustiques sont en rupture de stock, les hôpitaux sont débordés, mais le gouvernement de Javier Milei n'intervient pas et charge les régions de la gestion de cette crise. Caroline Vic.
Dans les vestiaires d'une salle de gym de Buenos Aires, Victoria, 50 ans, s'arrose les mollets avec parcimonie après sa douche avec le dernier spray anti-moustique qui lui reste.
Aujourd'hui, c'est un trésor, donc je ne le dilapide pas parce qu'on n'en trouve plus. Et ce qu'on trouve est très cher. Hier, j'ai vu une crème à 19 euros. Ce n'est pas un parfum, c'est juste une bombe anti-moustique. C'est de la folie.
180 000 cas de dengue et 129 morts, c'est 10 fois plus que l'année dernière. Des produits de prévention en rupture de stock et des hôpitaux saturés. Mais silence du gouvernement. Cette semaine, finalement, le ministre de la Santé, Mario Rousseau, est apparu à la télévision.
Seulement 0,2% des personnes infectées vont en thérapie intensive avec une mortalité de 0,05%. Il n'y a ni recette magique, ni vaccin d'ailleurs qui aide à baisser les contagions. Nous allons freiner cette épidémie avec de la prévention et une consultation précoce.
Et le gouvernement a fait une annonce hier soir, l'ouverture à l'importation de produits insectifuges pendant un mois, mais sans que l'organisme de contrôle de médicaments national n'intervienne et surtout sans restriction de prix.
La correspondance de Caroline Vic à Buenos Aires. La pression internationale sur Israël se renforce après la mort de cet humanitaire dans la bande de Gaza. Cette semaine, après cette grave erreur, l'armée israélienne a promis hier de laisser passer les convois humanitaires dans l'enclave. Pour la première fois, jeudi, Joe Biden a envisagé de conditionner l'aide américaine à des résultats tangibles sur ses engagements humanitaires. Pendant ce temps, les discussions sur la libération des otages reprennent en Égypte tout au long du week-end. C'est l'un des lieux les plus convoités de la planète. La mer de Chine méridionale sera demain le théâtre d'opérations militaires conjointes entre les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Des manœuvres face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Pékin, comme ses voisins japonais et philippins, revendique la souveraineté de ce secteur stratégique où transite un tiers du commerce maritime mondial. La Chine multiplie les provocations et la construction de bases militaires dans cette zone soumise à de fortes tensions internationales. Leurs couvertures aux tons souvent noirs et rouges prennent toujours plus de place dans nos bibliothèques. Depuis hier, le roman policier a pris ses quartiers sur les bords de Saône. Le festival Quai du Polar célèbre sa 20e édition ce week-end à Lyon, donc avec 135 auteurs de 15 nationalités. Cet événement est devenu une référence internationale pour l'un des genres littéraires préférés des Français, Éric Chavroux.
Et c'est le bel âge pour le polar français, avec 53% des ventes du secteur contre 37% il y a 10 ans, selon l'organisme GFK. Devant les locomotives anglo-saxonnes ou scandinaves, des auteurs plus classiques, entre guillemets, aimant à s'en inspirer.
On a beaucoup d'auteurs de thrillers français, beaucoup plus qu'avant, et mêlés à leurs propos des thématiques sociales, pas que du polar psychologique.
Natacha Levay, enseignante-chercheuse à l'Université de Limoges et spécialiste des fictions criminelles.
Donc le polar français est aujourd'hui extrêmement riche, une variété que je trouve inédite. Il y a le polar historique aussi qui a ses adeptes, puis il y a le cozy crime qui fait d'ailleurs aussi que à peu près tous les lecteurs peuvent y trouver leur compte.
Un succès populaire grandissant qu'a constaté Hélène Fischbach, directrice et cofondatrice de Quai du Polar, qui attend pas moins de 100 000 personnes pour cette 20e édition.
La première édition a eu lieu en 2005 et en 2006, c'était la parution du premier tome de Millennium. Et ça fait partie des phénomènes qui ont vraiment complètement entraîné le genre et surtout qui ont amené de nouveaux lecteurs. La série télé aussi, puis surtout depuis une dizaine d'années, il y a un succès impressionnant du polar français. Léoa, Franck Tillier et à Karim Ferré, je pense que ça fait partie des auteurs qui ont vraiment renouvelé le genre.
Davantage de légitimité aussi avec des universitaires qui l'étudient plus nombreux et mieux subventionnés. Mais à cause notamment de la surabondance de références, les ventes globales ont chuté de 8% en 20 ans d'après l'organisme GFK. Et le polar français peine encore à s'exporter en Angleterre et aux États-Unis.
Et vous découvrirez en une de notre site internet une info culturelle sur 20 ans de polar en France. La météo, c'est la journée la plus chaude de cette semaine. Déjà hors norme, il fait entre 11 et 17 degrés ce matin et même 24 degrés à Biarritz. On attend des pics de température cet après-midi jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest et 26 au nord-est. Le ciel est voilé partout en France. Les nuages sont plus épais sur la pointe bretonne et le golfe du Lion. 9h07.